On va aller ensemble dans un mot de prière, puis on va commencer, d'accord? Père éternel, merci pour ce temps avec toi dans ta parole ce matin. Seigneur, on aborde un sujet très, très beau, très riche, particulier au Nouveau Testament, qui est la question de l'adoration. Et Seigneur, je veux te demander, premièrement, de venir justement nous aider à saisir la beauté de l'adoration dans le Nouveau Testament, celle à laquelle tu nous invites, à laquelle nous participons. Et je te prie plus personnellement, Seigneur, de m'aider à avoir une bonne concentration des idées claires malgré mon rhume qui s'étire un petit peu. Je te demande de nous bénir ensemble. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, on est dans le cours « Que les nations se réjouissent ». Et pour nous, ce matin, c'est la dernière leçon, la leçon 11. Pardon. Je rappelle que ce cours-là est basé sur le livre de John Piper, « Que les nations se réjouissent ». Il est plus que basé, d'accord? Je fais juste exposer le livre. Puis après ça, je contextualise un petit peu pour notre Église. Citation que j'ai aimé répéter tout au long du cours de John Piper. Vous l'avez sur votre page couverture de vos notes. Le but suprême de l'Église n'est pas la mission, c'est l'adoration. Si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. Et donc, notre but en allant évangéliser, en allant annoncer l'Évangile, autour de nous, dans nos familles, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est quoi? Notre but, c'est de voir des gens qui ne sont pas des adorateurs de Dieu devenir des adorateurs de Dieu. C'est ça le but. Donc, le but de la mission, c'est pas la mission. C'est pas une fin en soi, la mission. Le but, c'est vraiment l'adoration. Et c'est de conduire ces gens-là à devenir des adorateurs. Puis un jour, lorsque Christ va revenir, qui va juger les bons et les méchants, vont entrer avec lui dans la gloire pour l'éternité, ceux qui sont déjà des adorateurs de leur vivant et qui vont entrer maintenant dans une adoration éternelle. Et donc, il n'y aura plus de mission. Il n'y aura plus de mission parce qu'il va simplement y avoir des adorateurs et ceux qui auront refusé d'adorer Dieu vont avoir été jugés et éloignés de lui pour l'éternité, n'est-ce pas? Condamnés pour l'éternité. Donc, ce matin, on va parler de l'adoration. Puisque tout le sujet du livre, c'est l'adoration. De quoi on parle lorsqu'on va dans le Nouveau Testament puis qu'on parle d'adoration? Et vous allez voir, ça va se compléter, ça va boucler la boucle par rapport à cette idée d'aller vers toutes les nations de la terre. Donc, lorsqu'on retourne vers le Nouveau Testament, la première chose à constater, c'est que il y a une indifférence étonnante, surprenante, quant aux formes extérieures de l'adoration dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, l'adoration faite par le peuple de Dieu est énormément codifiée. Ça se passe autour d'un bâtiment. Avant, il y avait déjà des rites, mais ça va se passer autour du tabernacle, du temple. Et tout le processus, il y a un protocole extrêmement rigoureux qui nous dit comment on s'approche de Dieu, dans quelles conditions on s'approche de Dieu, à quel moment on s'approche de Dieu, qui peut s'approcher de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on va s'approcher de Dieu. Puis on arrive dans le Nouveau Testament, puis tu cherches des directives sur ce que l'Église doit faire pour adorer, et il y en a très, 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 très peu. Maintenant, il y a des églises évangéliques ou des églises chrétiennes qui sont très, très rigides dans leur forme, puis c'est très structuré. Mais cette structure-là, ils ont pu s'inspirer des Écritures, mais on n'a presque pas de directive, d'accord? Et on va développer ça ensemble. C'est d'ailleurs quelque chose d'important par rapport à l'Église catholique. C'est que l'Église catholique, dans sa forme, est allée puiser toute sa structure pour son adoration dans le service de l'Ancien Testament. C'est vraiment important ce que je dis. Si vous regardez comment c'est fait, comment un bâtiment d'une église catholique est conçu, son architecture, c'est complètement construit sur la base du modèle de l'Ancien Testament. Et ceci apporte beaucoup d'erreurs théologiques, beaucoup d'erreurs importantes dans l'adoration. Ce qui fait que ça ne ressemble pas du tout, ou très très peu, à l'adoration qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Vous avez juste à penser à la fonction du prêtre dans le service de l'Église catholique, et vous êtes avec un prêtre de l'Ancien Testament, alors que le Nouveau Testament nous dit qui sont les prêtres. C'est qui les prêtres dans le Nouveau Testament? C'est tous les chrétiens. On croit au sacerdoce universel des saints, n'est-ce pas? Donc, tous les chrétiens sont des prêtres dans ce sens-là. Voilà, revenons à nos notes. Quand on parle d'adoration, justement, on n'est pas en train de parler du sens très, très contemporain du mot adoration. Souvent, là, lorsqu'on utilise dans nos églises le mot adoration, on est en train soit d'évoquer le temps de louange en église, lorsqu'on est en train de faire des chants, puis qu'on a des musiciens, puis que là, il y a eu la prédication, puis après ça, il y a eu l'adoration ou quelque chose comme ça. C'est pas dans ce sens-là qu'on l'utilise, d'accord? C'est un petit peu une espèce de déviation qui a été faite, puis qui peut vraiment porter à l'erreur aussi. Lorsqu'on parle de l'adoration, on parle vraiment de qu'est-ce que c'est pour un chrétien adorer Dieu. Et ça explose, ça dépasse de loin des temps de louange par le chant en assemblée. C'est ça qu'on va voir ensemble ce matin. Donc, vous avez une citation de John Piper au milieu de la première page. « Quand je dis que l'adoration est le but suprême de la mission, je fais référence à quelque chose de beaucoup plus fort, qui saisit vraiment l'âme et implique tous les aspects de l'existence par rapport à un temps de louange avec les chants. » C'est pas pour dénigrer nos temps de louange dirigés. Tout à l'heure, Charles va nous conduire avec les musiciens. C'est un moment dans lequel Dieu prend plaisir et qui est important. Mais c'est pas de ça premièrement qu'on parle lorsqu'on parle d'adoration dans le Nouveau Testament et dans la manière qu'on va le définir ensemble ce matin. Voici ce que nous nous proposons de démontrer au cours de cette leçon. L'adoration a évolué dans le Nouveau Testament pour devenir quelque chose de très simple et d'intérieur, je m'excuse pour la petite faute, ayant une grande diversité d'expressions externes dans la vie et la liturgie. Lorsqu'on parle de liturgie, on parle de, mettons, de la célébration d'une église, lorsqu'une église se réunit pour célébrer ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc, je vais juste corriger ma petite faute. Donc, l'adoration a évolué dans le Nouveau Testament pour devenir quelque chose de très simple et d'intérieur, ayant une grande diversité d'expressions externes dans la vie et la liturgie. Donc, ça se peut que ça vous brasse un petit peu ce matin, et que vous disiez, non, il y a une bonne manière de le faire. Ça fait 40 ans, Yannick, que je suis chrétien, je sais comment ça doit se passer, mais vous allez voir qu'on sort de ce cadre-là pour aller vraiment vers ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Puis, dans le contexte du livre qu'on est en train de traiter, du sujet qu'on est en train d'aborder, excusez l'anglicisme, là, mais ça fait beaucoup de sens de penser que Dieu aurait décidé, alors que... la mission est moins concentrée sur un pays, une ville, un temple, mais vraiment avec un mandat que notre Seigneur nous a donné d'aller, pouf, vers toutes les nations de la terre, et que, à la lumière de ce qu'on a vu dans les dernières semaines, Dieu veut littéralement avoir dans l'éternité des gens de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues qui viennent l'adorer. Dans cette perspective-là, tu dis... OK, si Dieu a donné énormément de liberté, ça va permettre l'expression de l'adoration à travers différentes cultures. D'accord? Et donc, cette diversité, c'est une des conclusions auxquelles on devrait arriver à la fin de cette leçon, c'est que cette diversité culturelle qui s'exprime dans l'adoration chez les chrétiens de différentes cultures à travers la terre, c'est quelque chose qui était dans le dessein de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez là-dedans? Donc, je m'en vais en Afrique, ils adorent, ils célèbrent toute la semaine et le dimanche de manière sensiblement différente, d'accord? Et ça devrait être célébré, ça. Ça devrait être vu comme une richesse. Je m'en vais en Asie, ça pourrait être différent. Et de vouloir formater, puis là, c'est une des... anciennement, les missionnaires européens... occidentaux qui allaient en mission arrivaient à un endroit, puis les gens, lorsqu'ils se convertissaient, devaient adopter leur tenue vestimentaire, littéralement, leur coupe de cheveux, leur manière de fonctionner, leur manière de célébrer. Pour eux, c'était ça d'aller faire des disciples. C'était aller faire des occidentaux qui croient en Jésus parce que les occidentaux croient en Jésus. Puis là, on a compris avec des missionnaires comme Hudson Taylor qu'on était en train de communiquer un message qui n'était pas le message de la parole. Il y avait l'Évangile, mais l'Évangile était comme tout caché par cette espèce de vision-là très colonialiste, d'accord? Puis on a compris ça. Maintenant, comment est-ce que ça peut se reproduire ça, à notre époque aujourd'hui? Bien, de manière moins violente, moins autoritaire, mais à travers le web. À travers le web, il y a des modes au niveau de l'adoration, de la célébration, qui partent, bouf, puis là on écoute, puis tout le monde est en train d'écouter du praise qui est fait en Australie par une église en particulier là-bas, puis qui est connue partout dans le monde, puis c'est tellement génial, puis on va tout chanter ça au ciel. Toute notre louange pour l'éternité va se faire en anglais, au ciel, inspiré de cette église-là en Australie, c'est ça? C'est pas ça qui va se passer. D'accord? Et donc, on ne devrait pas chercher comme église moderne à nier nos différences culturelles, mais ces différences-là devraient venir enrichir l'église. Dès maintenant, parce que ça va être le cas dans l'éternité. D'accord? Je ne sais pas si quand on va arriver au ciel, on va tous faire des retours à nos racines culturelles, puis Dieu va nous donner une couple de milliers d'années pour dire, OK, là, vous êtes toutes une gang d'Américains, là. Maintenant, on va faire ça comme il faut. Allez retrouver vos racines, puis on va trouver des couleurs différentes. Je sais pas, je fais des blagues, mais vous comprenez? Cette diversité-là est célébrée par Dieu. Alors, au haut de la page 2, pour résumer, on trouve dans le Nouveau Testament un degré d'indifférence absolument stupéfiant envers l'adoration en tant qu'expression externe et une profonde intensification de l'adoration en tant qu'expérience intérieure du cœur. Puis ça, encore là, c'est plein de bon sens. Si vous vous rappelez, on pourrait résumer la critique majeure que Dieu adresse au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est qu'ils adorent extérieurement, mais que le cœur n'est pas là, n'est-ce pas? C'est une des critiques les plus importantes que Dieu adresse à son peuple. Oui, 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 vous m'offrez des sacrifices, les chants sont là, tous les instruments sont super bien accordés, les voix sont parfaites, tout est là, mais le cœur n'est pas là. Puis c'est une des critiques les plus importantes dans l'Ancien Testament. Alors, on arrive dans le Nouveau Testament, puis c'est comme si Dieu dit, c'est pas la fin du monde, c'est sa fausse, tu sais. Si ton cœur est à la bonne place, dans un sens. D'accord? Je suis pas en train de dire qu'on veut pas bien faire les choses pour le Seigneur, au contraire. Donc, Jésus. Excusez. Excusez-le. Jésus comme lieu de l'adoration. Les lettres du Nouveau Testament nous donnent très peu d'informations et de directives sur la forme et le contenu de l'adoration collective du peuple de Dieu. Les célébrations ou cultes ou services sont très peu documentés. Je donne quelques références qui sont là. Alors, c'est vrai, on a un peu d'informations. Quand vous vous réunissez, voici quelle attitude vous devriez avoir. Prêche la parole, enseigne la parole de Dieu. Donc, il y a une place pour enseigner la parole de Dieu. Ils vont prendre le repas du Seigneur ensemble. Mais encore là, quand vous dites, si vous cherchez là, dans le Nouveau Testament, à quel moment l'Église prend le repas du Seigneur? Comment ça se passe? Des fois, les anciens, on est en train de discuter des questions comme, est-ce que c'est nécessairement les anciens qui doivent... Est-ce qu'un petit groupe de quartier pourrait prendre le repas du Seigneur? C'est une bonne question, parce que la réponse, il y a pas, je peux pas comme aller à la page 243, troisième paragraphe, directive sur le repas du Seigneur. Il ne se fera qu'en assemblée dirigée par un pasteur dûment reconnu et mis à part par l'Église. J'ai pas ça, vous comprenez? Donc, il y a très, très peu, là. OK, oui, ils prennent le repas du Seigneur, ça c'est clair, c'est une directive claire. Ils vont prêcher la parole, ils vont prier ensemble, ils vont s'entretenir par des chants, des cantiques, ça c'est tout clair. Quand est-ce que ça se fait? Comment ça se fait? Dans quel déroulement? Est-ce que ça doit se faire toujours en grande assemblée? Est-ce que ça se fait dans des petits groupes? Est-ce qu'il doit toujours y avoir un pasteur qui officie ça? Qui peut faire quoi dans ça? Oui, c'est toutes sortes de choses qui sont pas définies dans le Nouveau Testament. Puis là, on est juste... On semble encore une fois parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de célébration quand on parle de ça. Donc, on sait qu'il y a des éléments qui doivent être présents, mais on doit constater que si on compare avec l'Ancien Testament, là vous rappelez-vous, là, Deutéronome, rappelez-vous des directives, Exode, comment ça fonctionne, tout était super clair. Tu savais comment tisser ton tissu pratiquement pour la soutane du prêtre, d'accord? Tout était clair, 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 bien défini, au corps de taux. Tu n'avais pas besoin de régisseur pour ça. Tout le monde savait, ça se passe exactement comme ça. Puis j'arrive dans le Nouveau Testament, très, très peu de directives. Puis on va faire une comparaison, d'accord? Le mot, si vous allez au milieu, je crois, de ma page 2, là, le mot le plus souvent utilisé dans l'Ancien Testament, en hébreu, mais aussi dans la version grecque de l'Ancien Testament, pour parler d'adoration, son sens véritable, c'est se prosterner. D'accord? Donc, quand vous êtes dans l'Ancien Testament, puis que vous voyez à un moment donné le mot adoration qui apparaît, le mot hébreu qu'il y a derrière, puis lorsqu'on a traduit l'Ancien Testament, la Septante, en grec, on a respecté ce sens-là, on a pris un mot grec. Pardon, ces mots-là signifient se prosterner. C'est ça que ça signifie. Quand j'arrive dans le Nouveau Testament, la notion de se prosterner, donc le même mot grec proskuneo, je le retrouve dans le Nouveau Testament essentiellement 26 fois dans les 4 évangiles, la majorité du temps pour désigner ce que quelqu'un faisait quand il arrivait devant Jésus. Vous savez, quand vous pensez à des passages du Nouveau Testament, il arrive, puis paf, il jette aux pieds de Jésus, il se prosterne devant Jésus. C'est le même mot grec que j'ai là, qui est dans l'Ancien Testament. Mais ça, c'est dans les évangiles, puis Jésus est là. Fait que les gens arrivent, paf, ils jettent à ses pieds, Seigneur, puis ils sont impressionnés, sa grandeur, sa beauté, sa puissance. Puis là, donc ils se prosternent devant Jésus. Jésus monte au ciel, t'arrives dans le reste des épîtres qui nous expliquent comment l'Église va fonctionner. Maintenant que Jésus est parti au ciel, pouf, proskuneo est pratiquement plus là. Une fois, deux fois, vraiment pas grand-chose. Même dans certains cas, c'est des illustrations. Et donc, le mot le plus important dans l'Ancien Testament pour désigner l'adoration, il n'est plus là de nouveau. On s'en sert plus. Et donc, il y a quelque chose de majeur qui vient de changer quand j'arrive dans le Nouveau Testament, d'accord? Dans l'Ancien Testament, on se prosterne. Quand Jésus était là, on se prosternait. Quand est-ce qu'il réapparaît, ce mot-là? Il réapparaît dans l'Apocalypse. C'est drôle, hein? Quand on va être dans la présence de Dieu, quand on va être dans la présence de Christ, hop, le mot réapparaît, là. Mais dans les directives pour l'Église, actuellement, avant le retour du Seigneur, entre son élévation puis son retour, pratiquement pas utilisé. Pardon. Pourquoi est-ce que le Nouveau Testament néglige ainsi de nous éclairer sur les pratiques de l'adoration collective? Il doit avoir une raison à ça. Évidemment, il y en a une. Jésus libère l'adoration de tout lieu et de toute forme. Jésus nous a donné la réponse. Et probablement que le passage le plus important pour le comprendre, c'est dans Jean 4, 20 à 24. Mais juste avant d'aller là, on va aller voir des passages assez stupéfiants qui provoquent la réflexion. Dans Matthieu 12, 6. « Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus que le temple. » Je ne sais pas si vous vous rappelez quand Jésus envoie cette réplique-là. Et donc, il est en train de parler de lui-même. Puis il dit qu'en lui-même, dans sa personne, il y a quelque chose de plus grand que le temple, qui était vraiment le lieu d'adoration, de célébration. Dans Jean, Jésus leur répondit, Jean 2, 19, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Jean narre ensuite, commente, puis il dit, il est en train de parler du temple de son corps. Okay? Donc, Jésus est en train de dire qu'avec sa venue, il y a quelque chose de plus grand que le temple qui est là, puis il dit même, vous pouvez détruire ce temple, je vais le rebâtir en 3 jours. Son propre corps. Et donc, il y a un déplacement qui est en train de se faire ici. D'accord? Tout le focus dans l'Ancien Testament de l'adoration, de la célébration était sur un lieu géographique, sur un bâtiment précis, sur un endroit très précis dans ce bâtiment-là, l'Arche de l'Alliance, où allait reposer le regard de Dieu et la présence de Dieu. C'était le lieu très saint. Puis Jésus vient et dit... Il y a quelque chose ici de plus grand que tout ça. Tadam, c'est moi, c'est Jésus. D'accord? C'est ça qu'il est en train de dire. Et tranquillement, les autorités juives ont commencé à comprendre ça, puis ont dit, « OK, non, ça ne marche pas, il faut le tuer. » Ces paroles allaient lui valoir la peine de mort. Mais Jésus nous a ainsi enseigné sur la place et le lieu de l'adoration. Il déplace, pour ainsi dire, le lieu d'adoration du temple vers sa propre personne. Puis bon, on ne va pas développer tout ça ce matin, mais dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, toutes les fonctions essentielles du temple sont accomplies, n'est-ce pas? Tout ce qu'on allait faire au temple est résolu dans la personne de Jésus-Christ et de son œuvre, son sacrifice à la croix, sa résurrection. Il n'y a plus lieu d'avoir un temple pour répéter des choses qui ne faisaient qu'annoncer, dans le fond, ce que Jésus allait faire. Tout est accompli en Jésus-Christ, d'accord? Donc, Jésus-Christ est maintenant notre repos à nous, notre lieu, pas physique, d'adoration. OK? Donc, on continue dans la même idée. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a plus de bâtiments. Il n'y a plus de sacrifices. OK? On n'a plus besoin d'un bâtiment particulier. Il n'y a plus de sacrifices nécessaires. Tout a été accompli en Jésus. Et là, il y a vraiment une drôle de faute qui s'est mise dans ma phrase. Là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est dans sa grande conversion avec une femme, conversation, d'accord? Je suis vraiment désolé, quand j'ai vu ça, j'ai dit « ouch », OK? J'ai pas enseigné dans sa grande conversion avec une femme, d'accord? C'est dans sa grande conversation avec une femme au bord d'un puits que Jésus nous enseigne et nous révèle ce que Dieu entend par adoration. Je vous relis le passage rapidement. Jésus parle avec la femme samaritaine. « Nos pères ont adoré sur cette montagne. » C'est la dame samaritaine qui dit ça. « Et vous, dites, vous les Juifs, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus prend la parole. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas en parlant des Samaritains. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Pas sûr que c'était facile à avaler, ça. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs... » Donc, il a parlé des non-Juifs, il a parlé des Juifs, là, maintenant, il parle des vrais adorateurs. « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Et donc, sans faire toute l'exégèse de ce passage-là, Jésus est en train de nous enseigner que ça va être en esprit qu'on va adorer plus que dans un lieu quelconque. Clairement, par l'Esprit Saint qui va nous être donné, on va être en communion. Hein? L'Esprit de Christ nous est donné. Puis on est en communion avec lui n'importe où, n'importe quand, 24 heures sur 24, pas besoin d'accéder au temple puis d'arriver avec des sacrifices. Et en vérité, parce que en Jésus-Christ, on va connaître véritablement Dieu. C'est un peu ça qui est développé dans la série sur Éphésiens, dans la lettre aux Éphésiens, quand Paul commence et il dit, « OK, là, attendez, là, je sais que vous avez entendu l'Évangile, vous avez cru en Jésus, mais réalisez-vous toutes les vérités qui nous sont révélées sur la personne de Dieu à travers l'Évangile? Réalisez-vous quelle est votre identité? Réalisez-vous comment vous avez été aimé? » Puis ça va être quoi les prières de Paul que Paul répète à deux reprises? C'est « Ma prière... » C'est que ces vérités-là, l'amour de Dieu pour vous, viennent remplir toute votre intelligence pour que vous compreniez à quel point vous avez été aimé. Fait qu'en quelque sorte, Paul est en train de nous dire, vous allez alors adorer Dieu en esprit et en vérité par une illumination de votre intelligence, des yeux de votre cœur. Vous allez saisir la grandeur de l'Évangile, la grandeur de l'amour de Dieu pour vous. Et vous allez l'adorer conséquemment à cette compréhension, cette vérité sur la personne de Dieu. Donc, les expressions en esprit désignent très certainement que l'adoration doit se faire par la puissance de l'esprit et l'adoration en vérité doit exprimer l'idée d'une adoration qui repose sur une connaissance réelle et véritable de la personne de Dieu. Rappelez-vous, Jésus confrontait les autorités juives puis leur disait « Vous ne connaissez pas Dieu. » Puis là, eux, c'est quoi? C'est notre Père. On connaît Dieu, on est fils d'Abraham, c'est notre Père, on le connaît. Vous ne connaissez pas Dieu. Si vous connaissiez Dieu, vous me connaîtriez. Vous ne connaissez pas Dieu. Donc, vous ne connaissez pas la vérité sur Dieu. D'accord? Et lui, Jésus, est la vérité qui vient leur révéler qui est Dieu. Connaissez Jésus, puis vous connaissez le Père. C'est ça qu'il dit à Philippe. Hein? Philippe, je suis avec toi. Tu ne connais pas le Père. Mais si tu m'as connu, tu as connu le Père. Tu es en communion avec le Père. Et donc, la direction qu'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est vers une expérience intérieure qui se propage extérieurement dans tous les aspects de la vie. Si dans l'Ancien Testament, l'adoration semble être quelque chose de très formel, très extérieur, très clair, puis qui est supposé nous inspirer à l'intérieur à bien adorer, quand j'arrive dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose qui se passe d'intérieur. intérieurement, je connais Christ. Rappelez-vous la semaine dernière dans Éphésiens. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, que vous avez connu Christ dans une relation intime. Vous avez eu une révélation de la personne de Jésus-Christ. Puis ensuite de ça, ça va aller vers l'extérieur. C'est la difficulté, là. Tout à l'heure, je mentionnais l'Église catholique, mais quand les gens... Toute la compréhension de l'adoration dans l'Église catholique a été construite autour de l'idée que l'extérieur doit inspirer l'intérieur. Donc, moi qui... j'ai jamais vraiment fréquenté une église catholique. J'ai été baptisé catholique quand j'étais bébé. J'ai été baptisé catholique à ce moment-là, mais à 7 ans, j'allais dans une église évangélique. Donc, j'ai aucune connaissance de ça. Mais moi, encore aujourd'hui, si je rentre dans une belle cathédrale, avec les architectures absolument extraordinaires. Il y a un ami là, qui vient de revenir de vacances, il est en Espagne, il m'a parlé des églises gothiques là-bas. Je rêve d'aller dans ces églises gothiques-là. Puis si je rentre dans ça, hormis le fait que en bon iconoclaste baptiste, j'aurais le goût de prendre une masse puis briser des idoles, une fois qu'on a fait le ménage des idoles, l'architecture de cette place-là, t'es comme oh! Hein? Là, t'as l'impression que, pour moi, une grande cathédrale, c'est comme si j'étais en forêt. Mais c'est plus sain, je pense, en forêt, parce que j'ai juste la création de Dieu plutôt que tout ce qui a été dénaturé là. Mais il y a ça, hein? Mais c'est volontaire. C'est volontaire. Ça a été conçu comme ça pour que la forme extérieure, le rituel, l'encens... J'ai assisté au service d'une de mes tantes il y a quelques semaines de cela, puis donc c'est très rare que je vais dans une église catholique, dans un service, mais là, j'étais là, puis... Puis personnellement, j'ai jamais aimé l'encens qu'ils mettent dans les services. C'est comme, j'ai pas été élevé avec l'encens. J'ai l'impression que ça me prend partout dans la tête, puis que c'est comme agressant. Mais là, pour la première fois, j'étais là, puis j'entendais les cloches, puis je voyais le rituel, puis là l'encens qui s'en venait, puis je dis, c'est puissant cette affaire-là. Il y a vraiment quelque chose de puissant pour que là, tout d'un coup, boum. Mais je veux dire, je suis désolé d'être aussi cru. Ceux qui sont au Québec depuis 20 ans, vous savez que tu peux être un Hells Angels, puis on va faire ton service dans une église catholique. Puis le prêtre va dire, notre frère est avec nous aujourd'hui, il veille sur nous. On a vu ça au Québec, non? Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux être un Hells Angels, rentrer dans un service comme ça, puis avec tout ce qu'il y a d'extérieur, à un moment donné, c'est comme, je sens Dieu, je sens Dieu. Il n'y a rien d'intérieur. Je connais pas Dieu, mais tous les rituels qui sont là m'ont conditionné à imaginer que je suis en communion avec Dieu. D'accord? C'est encore une autre tirade, je suis désolé, mais c'est important. On oublie notre histoire ici au Québec, puis des fois les plus jeunes générations cherchent des rituels. Et c'est pas là dans le Nouveau Testament. Donc, ce qu'on trouve au bas de cette page-là, une expérience intérieur qui se propage extérieurement dans tous les aspects de la vie. Dans le Nouveau Testament, l'adoration est dénuée de tout bâtiment particulier, de toute institution ou d'extériorisation particulière. Le cérémoniel, les calendriers, les lieux, les formes n'ont plus d'importance en comparaison avec l'adoration de l'Ancien Testament. Donc, je suis pas en train de dire que c'est sans importance. Mais toute proportion gardée, c'est vraiment pas important. Elle se transporte en tout lieu et dans tous les moments de la vie. Dans 1 Corinthiens 10:31, on va lire « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Hop! Donc on fait des choses, on est dans le service de l'adoration dans le Nouveau Testament. Ça vient du cœur, puis extérieurement, ça va se traduire à chaque instant de la vie. Dans la réponse que je donne à mon épouse, je suis en train de célébrer Dieu ou non par mon attitude. Dans ma réaction devant quelque chose qui m'est proposé par la culture, qui serait une offense à Dieu, dans mon désir d'aller être généreux, dans mon désir d'aller vers les Écritures, à tous les jours, à chaque instant. C'est ça qui est en train de se passer. Colossiens 3:17, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce. » Et donc, notre service d'adoration se transpose à toutes les minutes de notre vie, dans tous les lieux où nous sommes, parce que nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. On peut l'adorer en esprit et en vérité à chaque instant, constamment. Nous pouvons, en lisant le Nouveau Testament, choisir et déduire des éléments qui seraient plus que pertinents pour une célébration en Église, tels que les chants, je l'ai dit tantôt, la prédication, les exhortations, les prières. Mais on n'a pas de directive explicite sur la forme qu'un service devrait prendre. L'accent est mis sur le service que nous offrons à Dieu, pas le dimanche matin, mais à chaque instant de notre vie, de nos vies. Et donc, oui, c'est un service d'adoration qu'on fait ici, mais vous comprenez, dire ça, c'est quasiment induire quelque chose de faux, parce que à chaque seconde qu'un chrétien vit, il fait un service d'adoration. Chaque seconde. Quand je décide de m'arrêter pour écouter un film, un soir de semaine, parce que je suis fatigué, puis je dis, Seigneur, je pense que c'est bon, je peux me reposer. La manière que je vais choisir ce film-là, je suis en train de faire un service d'adoration. C'est ça que je suis en train de faire. C'est une célébration à la gloire de Dieu par ce discernement. La semaine dernière, c'est ça qu'on parlait dans Éphésiens, hein? Dieu nous a remplis, nous a donné son esprit afin qu'on ne fonctionne plus comme les gens qui sont dans l'ignorance, qui ont été rendus insensibles à l'égard de Dieu. Mais nous, on a l'esprit de Dieu afin d'user de discernement. Et donc, on peut aller dans toute la vie, puis renoncer à ce qui est mal, choisir ce qui est bien, puis savoir pourquoi on le fait, quelle est la bonne raison. C'était ça, la semaine dernière, le message. Parce que chaque fois qu'on est en train de faire ça, à chaque instant de nos vies, on est en train d'offrir un service d'adoration à Dieu. Constamment. Et donc, lorsqu'on se réunit en église, en assemblée, aussi pour célébrer Dieu, on a peu de directives. On a une bonne idée d'éléments qui devraient être là. Régulièrement, quand l'église se rassemble, elle devrait prendre le repas du Seigneur. Régulièrement, quand l'assemblée se rassemble, elle devrait exposer la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu, prier ensemble, s'entretenir par des cantiques de louanges. D'accord? Régulièrement, lorsqu'on se réunit, on devrait faire ça. Quelle forme? Est-ce qu'on doit faire ça une fois par mois, le repas du Seigneur, à chaque semaine? Vous voyez, puis là, il y a toute une diversité en différentes dénominations, puis en différentes cultures. Donc, ça va même jusqu'à toute la question des dénominations. Lorsque les gens vous disent « Oui, mais pourquoi il y a autant de dénominations puis vous êtes tellement divisés? » Mais c'est vrai que pendant longtemps, il y avait comme une espèce d'esprit de clocher même entre les églises évangéliques. C'est beaucoup moins présent, ça, aujourd'hui. Et donc, une des réponses, un esprit de clocher, je vois des visages, un esprit de clocher, ça veut dire « Moi, je suis de telle paroisse, puis toi, tu es de telle paroisse, puis on se parle, c'est une expression québécoise. » Un esprit de clocher, ça veut, ou peut-être française même, mais ça veut dire qu'entre les paroisses, là, ça, c'est mon clan, ça, c'est ton clan, puis il peut y avoir un esprit de clocher entre dénominations. Je suis telle dénomination. C'est moins présent maintenant. Et donc, une des réponses, une des belles réponses à faire à des gens qui sont pas chrétiens, qui nous posent des questions, vous pouvez dire, bien écoutez, il y a des sectes qui se réclament du christianisme et qui enseignent l'erreur. Mais il y a beaucoup d'églises qui enseignent la vérité avec une culture différente puis avec des nuances différentes parce que Dieu célèbre la diversité. Puis c'est correct, ça. C'est correct si moi, je suis un peu plus confortable dans une assemblée des frères où ça va être un petit peu plus comme communal ensemble. Puis si je suis plus confortable dans une église peut-être presbytérienne où là, ça va être beaucoup plus dirigé. Donc, il va avoir des éléments différents. Dieu célèbre la diversité. Puis c'est correct qu'il y ait même cette diversité-là à l'intérieur d'une ville. Jean Calvin, qui est perçu comme un des gars les plus rigides de l'histoire. Jean Calvin était vraiment perçu comme quelqu'un de très, très rigide. Voici ce qu'il a écrit dans les institutions chrétiennes. Quant à la discipline extérieure et aux cérémonies, le Seigneur n'a rien voulu nous ordonner de particulier, ni nous indiquer mot à mot comment nous devons nous comporter, puisque cela dépend de la diversité des époques et qu'une forme ne conviendrait pas à toutes les situations. Enfin, comme Dieu n'a rien enseigné de façon expresse, puisque cela ne concerne pas notre salut et qu'il convient d'agir de façon diverse selon qui est nécessaire pour l'édification, nous devons en conclure qu'on peut les changer, en fixer de nouvelles et supprimer celles qui ont été jusque-là la norme pour la vie de l'Église. Je reconnais qu'il ne faut pas tout changer tout le temps. Sans bonne raison, l'amour fraternel nous suggérera ce qui est de nature à nuire ou à édifier. Si c'est lui qui nous inspire, tout ira bien. Et donc, ça ne veut pas dire que tous les dimanches, On devrait virer les chaises de bord, décider que tout le monde chante par là-bas pendant que les musiciens sont ici, puis on sort les livres de cantiques une semaine, l'autre semaine on est avec ça. On décide pendant 3 mois qu'on ferme le bâtiment, on fait juste ça dans les maisons. C'est pas ça l'idée, d'accord? On s'amuse pas à changer les choses pour changer les choses. Il y a quelque chose de malsain là-dedans parce que à un moment donné, le changement devient une idole en lui-même. Puis on est comme dans la culture du changement, puis on suit les modes, puis comme je disais, on est tous des adorateurs australiens, américano-australiens qui louons tout avec du Hillsong, toute la gang, pour ne pas les nommer. Mais, donc c'est pas ça l'idée. Mais en même temps, Jean Calvin, il dit, non, le Nouveau Testament est clair. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté. Et donc, c'est même correct dans une certaine mesure à ce que lorsque l'Église passe d'une génération à l'autre, au fur et à mesure que la jeune génération s'instruit bien dans les Écritures pour ne pas partir après des modes puis décider que ça nous prend des lampions dans la salle pour adorer Dieu parce que je ne sens pas la présence de Dieu s'il n'y a pas des lampions. Il y a tout un mouvement de Emerging Churches qui a été très, très fort puis c'était très rituel. Sans permettre cela, au fur et à mesure que la nouvelle génération est bien fondée dans les Écritures, puis qu'elle dit « Ah, sais-tu, nous, on ferait ça un petit peu différemment. » L'Église doit avoir cette ouverture-là, puis cette assemblée-ci a eu cette sagesse de dire « On se réjouit de voir tranquillement les jeunes générations prendre la relève, puis s'approprier dans un sens l'Église, sans rejeter les autres générations. » Donc, l'Église doit être une Église de toutes les générations, puis c'est pas toujours confortable, cette affaire-là. D'accord? Mais ça devrait être l'esprit dans lequel on le fait, ça devrait être dans cette direction-là qu'on devrait aller constamment. Il y a donc une formidable intensification dans le Nouveau Testament de l'adoration en tant qu'expérience spirituelle intérieure. Ce qui fait, pour boucler la boucle avec notre livre, puis après je vais juste lire les quelques lignes de résumé, ce qui fait que, là je vais prendre un terme un peu mercantile, mais que l'Évangile s'exporte très, très bien. D'accord? L'Évangile doit très bien s'exporter parce qu'elle n'a pas de forme. L'Évangile n'a pas de forme. Il n'est pas attaché à une seule culture. Il doit, au contraire, pouvoir pénétrer toutes les cultures. Puis au fur et à mesure qu'il y a des gens qui vont venir à la connaissance de Jésus-Christ dans chacune des cultures, ils vont développer un discernement avec la parole de Dieu pour célébrer Dieu dans leur vie quotidienne et lorsque l'Église se rassemble, en l'exprimant à travers leur culture. Mais tout en honorant toutes les Écritures. D'accord? Puis ça fonctionne. Je fais partie de groupes de pasteurs qui font des appels peut-être aux 2 mois. Puis sur mon pastor's call, il y a des gars qui sont en Allemagne, il y a des gars qui sont en Afrique du Sud, il y a des gars qui sont dans les Caraïbes. Malheureusement, il n'y a pas de Chinois. J'aimerais ça. On n'a pas de gens d'Asie. Mais il y a quand même déjà une diversité qui est importante en Amérique latine. Et puis, évidemment, au Québec, qui est quand même différent, au Canada anglais. Puis lorsqu'on parle ensemble, on peut discuter, même si j'allais les visiter dans leur église, ce serait différent. D'accord? Mais on est capable de discuter ensemble puis parler de l'Église puis de l'adoration. Donc, qu'est-ce qu'on a vu en résumé dans ce cours-là? Si on essaie de résumer un petit peu le livre. L'adoration, le but de la mission est donc que les peuples se réjouissent de la grandeur de Dieu. Le but de la mission, c'est ça. Le but de la mission, c'est l'adoration, c'est de conduire des gens à devenir des adorateurs. La prière est au cœur de la mission car Dieu est l'agent principal de la mission, se réservant la gloire de cette œuvre grandiose. Donc la prière est au cœur parce que c'est Dieu l'agent. Et il se réserve toute la gloire à lui pour la mission. La souffrance est partie intégrante de la mission. Les missionnaires, trouvant leur plaisir en Dieu à titre d'adorateur, acceptent la souffrance qui leur incombe pour l'avancement de la mission. Dieu se glorifie par des missionnaires qui acceptent de souffrir pour l'avancement de la mission, comme Christ l'a fait lui-même pour notre salut. Est-il primordial de connaître Christ? La Bible affirme que Jésus-Christ seul est le moyen de salut et que sa connaissance est essentielle au salut. Donc, nous avons une mission d'aller vers toutes les nations de la terre. Nous avons cette mission-là, c'est le seul moyen de salut pour toutes les nations de la terre. La priorité aux êtres humains ou aux peuples Est-ce que Dieu veut sauver le plus d'individus possible? Si c'est ça, on ne part pas en mission, essayer de traduire la Bible dans une langue que les gens ne connaissent pas, on continue là où on est efficace. Non, Dieu veut des gens de toutes les nations de la terre qui vont le célébrer dans toutes les langues de la terre pour l'éternité. Il ne va pas effacer Babel au ciel, il va célébrer le salut d'êtres humains qui ont été rebelles sur toute la terre. Et donc, la priorité de Dieu pour la mission est qu'il soit glorifié parmi tous les peuples de la terre. La priorité d'atteindre ainsi tous les peuples non atteints avec l'Évangile est suprême. Je termine avec cette citation. Le but suprême de l'Église n'est pas la mission, c'est l'adoration. Si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. Alors, j'espère que vous avez grandi à travers ce cours-là sur votre vision de la mission, sur le désir dans vos cœurs de supporter la mission dans la prière. Je vous rappelle qu'on a fait l'acquisition de livres qui vous présente tous les peuples non atteints sur la terre et qui vous dit où est-ce qu'on est rendu dans l'évangélisation mondiale. Le livre est en anglais, mais c'est tellement simple comme data que vous pouvez vous le procurer la prochaine fois qu'on sort notre table de livres et puis lire jour après jour pour un peuple qui n'a pas été atteint, puis savoir où est-ce qu'on est rendu, c'est quoi les requêtes qu'on devrait prier, c'est quoi les difficultés pour aller là-bas. La Bible est traduite jusqu'à quel pourcentage dans leur langue? Est-ce qu'on a un film Jésus dans leur langue qu'on peut projeter là-bas? Comment est-ce qu'on essaie de les rejoindre? Alors, j'espère que ce cours-là vous a fait grandir dans votre vision pour la mission, mais qui vous a fait grandir aussi dans votre vision de Dieu, de ce grand Dieu-là qui aime tellement les gens de toutes les nations de la terre, qui veut en avoir de tous les peuples, de toute langue, de toute famille, qui vont le célébrer pour l'éternité avec nous. On va prier ensemble, et on va terminer ce cours-là. Si vous voulez, vous pourrez aller réécouter les leçons sur le site web, chercher les notes qui sont là, prenez le temps de relire le livre de John Piper ou de vous lancer dedans maintenant qu'on a placé quelques notions. Père éternel, merci. Merci pour ce cours. Seigneur, j'ai été le plus enrichi, certainement le plus béni. À travers ça, de pouvoir m'arrêter comme ça puis décortiquer chacun des chapitres de ce livre semaine après semaine. Ça a été une joie pour moi, Seigneur. Merci pour ton amour pour les peuples. Je te demande de nous aider à grandir comme Église, Seigneur, dans notre générosité financière pour la mission, dans notre soutien dans la prière pour nos missionnaires, Seigneur. Et on te prie, Seigneur, d'appeler au milieu de nous des hommes et des femmes à aller vers les peuples non atteints sur la terre, Seigneur, et qu'on puisse les supporter dans la prière et financièrement pour que des gens de toute nation de la terre puissent célébrer ta gloire avec nous dans l'éternité. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.